cette rencontre, la première du genre aux Utopiales, réunit, il y en aura quatre du genre lors de cette session, réunit donc un auteur et son traducteur, en l'occurrence une traductrice, donc Paolo Bassigoulapi, l'auteur, Sarah Doc, traductrice en l'occurrence, mais elle est aussi auteur. Alors, c'est la première fois que nous faisons ça, donc on invente un petit peu en faisant. Et je me suis dit que ce qui était intéressant, ce qui intéressait beaucoup de lecteurs, et je suis parmi eux, c'est la façon dont le travail se fait au quotidien, le travail d'écriture, le travail de traduction, donc on va en parler effectivement. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous vous présentiez peut-être de manière un peu croisée, si vous vous sentez capable de le faire. Par exemple, Sarah Doc, peux-tu nous présenter Paolo Bassigoulapi?
Paolo Bassigoulapi est un auteur de science-fiction américain vivant au Colorado qui travaille essentiellement à prévenir ses lecteurs contre le terrible avenir que notre monde nous garantit pour l'instant. Il va écrire à ce moment-là sur les grands semenciers, les maladies végétales transmissibles à l'homme, la montée des eaux, la fin du pétrole, les problèmes de la disparition de l'eau et l'assèchement des aquifères ou de la pollution. Il va pour cela s'adresser aussi bien à des adultes, à des adolescents ou à des enfants, dans des mondes qui sont glaçants de réalité. Glaçant tellement quand on s'intéresse un petit peu à l'actualité, on voit que si on ne fait pas attention, si on n'essaye pas de changer les choses, c'est exactement ce qui nous attend.
All right, my turn now.
So, Paolo, do you feel like talking about Sarah and what you know about her?
All right, so one of the things that's sort of interesting about writing is that you create this story and then you hear that perhaps France has bought the rights for your book, and there's going to be somebody who's going to take care of turning your single language persona into a dual language persona, and who's going to introduce you to another country and another culture. I think that the first time, so Sarah has done translation for a number of years, but she lives in Belgium, and the first time we had a substantive conversation, I remember her checking in with me about Shipbreaker and asking, you know, the slang that you use, it doesn't really work in the French context. It doesn't play. But I was thinking about using this other kind of slang from the professional language of metal workers. And I think that it might fit well with the way that you're doing your story and the way that the book works. And I was so grateful because there was this sudden moment where you knew that you were in good hands, that somebody else was making sure that you weren't just being translated word for word, but you were also being guided into another culture with your language and with your story. And so that was the first time that I got to know Sarah.
So do you feel this is a faithful portrait that she gave of you?
Well, given the number of awards that we've won together, I think that it was a fateful sort of thing. I feel very lucky, actually, to have her and to have such a thoughtful hand on my writing. Because it's something that I fundamentally cannot do, and I know it's a hugely complex task. And so, I've read stories by other people translated into English, and you can tell when there's a clumsy translator. You can tell when the language, the words are there, but the feeling behind them isn't. And so having someone like Sarah who does such great work is, it's an honor. So.
Un honneur, certainement. Sarah, en tant que traductrice et auteur, vois-tu, toi, des similitudes vraiment très proche entre le travail d'auteur et de traducteur? Évidemment, la conception même du livre n'est pas du fait du traducteur, mais sur ce que tu vis, toi, en tant qu'auteur ou que traductrice, as-tu remarqué des similitudes dans ta façon de travailler, ta relation au texte, à chaque fois?
Peut-être pas dans ma façon de travailler, peut-être pas dans ma relation au texte, dans la concentration. Dans la concentration à la limite de la transe à laquelle on arrive en travaillant. Mais par exemple, quand j'écris pour moi, quand j'écris mes textes, j'écris à la main. Quand je traduis sur la machine. Mais en même temps, pour moi, il n'y a pas tant de similitudes que ça, parce que mon travail, c'est de me mettre dans la tête de l'autre et de comprendre pourquoi chaque mot. Pourquoi, qu'est-ce que l'auteur veut vraiment dire? Pourquoi il a choisi d'exprimer les choses de telle ou telle manière? Quelle est la musique de son texte? Pour moi, un texte a une musique. Tout texte a une musique. Un auteur va composer une musique. Un traducteur va... C'est comme si c'était quelqu'un qui... comme si c'était un flûtiste qui adaptait la musique d'un violoncelle. C'est vraiment changer complètement. Et donc mon travail, c'est vraiment de me mettre dans la tête de l'autre, d'arriver à penser comme lui, à comprendre tous les tenants et les aboutissants et les choses qu'il y a derrière. Pas dans le texte, mais derrière le texte.
And Paolo, on your side, did you ever translate in your life, and did you have any feelings about translating as such?
Yeah, I actually, so I speak, the one language that I speak other than English is Chinese, and I had worked in China at one point for a business publisher, and so we translated various kinds of industry news from Chinese into English, and so, you know, we'd be translating things from the telecom industry or the aerospace industry or the food and beverage industry. And I was at the very end of the chain. I was the person who was supposed to sort of make sure that the English really made sense and was really clean. There were other professional editors, technical editors who came before. And it was a hugely complex process, you know, not only with just working with the vocabulary, but also trying to go back to the original text of a journalist who's writing about a complicated industry and trying to figure out, does the journalist even know what they're talking about when they write about, you know, laying fiber in Gansu province or something? The process of just getting the most basic nonfiction information out of one language and into another in a useful, meaningful way was extraordinarily complex. And so it's one of the reasons why I have so much respect for someone like Sarah, who can translate fiction, which is meant to not just carry the specific, factual meaning of the words, but is also supposed to carry, as she said, the music of it, the feeling, the layers of emotion that should be also translating across, and should mean as much to a French reader as to an American reader. And that's, you know, they're just... I've done just enough translation to understand how complicated it is, and to sort of be in awe of the process.
Alors, on va peut-être revenir à l'actualité livresque du moment en ce qui concerne, en ce qui vous concerne tous les deux ensemble. C'est donc la parution de Waterknife, titre français, hein, car c'est une appellation. Sarah expliquera de quoi il s'agit exactement. Et donc, Waterknife vient de sortir aux éditions du Diable Vauvert. C'est donc une œuvre sur laquelle que je viens de lire et que je vais pouvoir, sur laquelle je vais pouvoir vous poser quelques questions plus précises sur votre travail. Mais d'abord, une question justement, Paolo. Paolo, you were talking about. Je vais parler de documentation. You were talking about documentation for non-fiction. What about documentation for your fiction? Your fiction is very much documented, from what I read in Waterknife. And et toi, Sarah, penses-tu avoir eu à faire ce même travail de documentation? Est-ce que ça fait partie pour toi du travail de traduction? Bah, donc, question croisée sur la documentation. Paolo d'abord, peut-être. So maybe you start with documentation and the subject of the book?
Yeah, so the story is about climate change, and specifically about drought driven by climate change in the southwestern United States. It's all about Las Vegas and Phoenix fighting over water in the Colorado River, and that there's not enough water. This is a story based in fact. Right now, there's not enough water in the Colorado River. Right now, Phoenix, California, Las Vegas, all of these places are fighting over their shares. Each one has a legal share to the river. And there's a lot of argument about whether or not they're all getting their shares or how to make sure they get all their shares. And also, there isn't enough water to go around already. I used to work for a newspaper as an editor, and we covered the resource issues all the time. And so when I wanted to write about climate change, I knew I wanted to write about a specific place with specific issues. And so this became sort of the canvas for me to try to tell a story about drought and adaptation and whether or not we're planning or not planning for our future. The amount of material that you start with when you're trying to make a fantasy world, but you want it rooted in reality in a way that means something to people. And so you start from fact, and then you say, okay, if this goes on, what will the world look like? If the data that we're seeing about climate change is going to happen, then what will the world look like? And then you start making your guesses. It's all rooted in an original sort of understanding of a specific place with specific resource problems, and then making guesses about how that future will play out.
De mon côté, depuis que je parle couramment le Bachi Galupi, j'ai beaucoup moins de recherches à faire, parce que c'est lui qui a fait les recherches au départ. J'ai des recherches de vocabulaire, bien entendu, tout ce qui concerne justement le forage, l'eau, etc. En même temps, comme je m'intéresse au changement climatique et à ce genre de choses, au fracking, etc., c'est un vocabulaire que j'avais en grande partie déjà à la base. Pour d'autres traductions, j'ai beaucoup, beaucoup plus de travail à faire. Mais avec Paolo, comme il fait très, très bien le travail au départ, il me facilite la vie.
Tu es déjà imprégné.
Tout à fait.
Donc pour un roman humide... Donc en fait, la qualité essentielle de ce roman, en dehors des qualités d'écriture, bien entendu, de son intrigue extrêmement prenante et du suspense qui s'en dégage, c'est qu'il y a aussi un véritable travail sur le style. Et ce roman pourrait finalement être beaucoup plus qu'un roman d'anticipation, mais un roman écrit à l'époque dont il est question dans le roman. C'est une de ces œuvres rares, comme on les apprécie particulièrement dans le domaine de la science-fiction. Vous avez eu de nombreux échanges, tous les deux, justement, sur les questions. Tu parles couramment le Bachi Galupi, mais les langues évoluent. Avez-vous eu de nombreux échanges, de nombreuses questions?
Non.
Non.
Non. Cette fois-ci, je n'ai pas vraiment eu besoin de lui poser de questions, parce que, en même temps, le style de Paolo est tellement fluide et tellement propre que ça vient tout seul. On l'entend au rythme de mes doigts sur les touches. D'un auteur à un autre, j'ai pas le même rythme. Avec Paolo, ça va très vite. Ça coule tout seul. Parce que sa langue coule. Parce que son style est fluide.
Toujours de l'eau.
Toujours de l'eau.
Alors, explique-nous un peu quand même donc les water knife, ce qu'est le water knife dans le roman.
Un water knife est en fait un coupeur d'eau. C'est-à-dire que c'est un homme de main employé par l'une ou l'autre, un État, une ville, une entreprise, pour garantir ses droits à l'eau, pour aller faire exploser une usine de traitement, pour faire s'effondrer un barrage, pour récupérer des droits ancestraux quelque part cachés dans une ville, pour en fait, au service d'une entreprise, d'un État, aller voler l'eau à d'autres.
Et cette création, this creation of a water knife, Paolo, is it based on real characters or practices in the United States right now about water usage rights, or is it a pure invention on your part? Okay.
The water knife itself is, the water knives are my invention, partly because you're looking for a way to make something that's very uninteresting. Water rights are probably the most boring topic that you can imagine. And so trying to dramatize water rights, they're very interesting if you're a farmer and you don't have any rights. But if but otherwise, yeah, in order to dramatize water rights, I created the water knives, and I think of them as being 007s of water, the James Bonds of water, and that way that there would be some movement. But also there is something true that that we have fought over water in the past. Who gets it? Who controls it? Historically, one of the more interesting things was when Los Angeles decided to dry up an entire river valley and pipe all of the water to Los Angeles. The Owens River Valley was dried up. And there are sort of a historical precedents for the people who Las Vegas worked with to make that happen were what I think of as sort of the prototypes of the water knives, the people who said, yeah, I've got more money I make more money if I help Las Vegas do this thing, and we're going to buy up the land that we need, and we're going to buy up the rights that we need to make this thing happen. And in the end, the valley died because of it.
Okay, let's go back to your way of writing. I'm very curious about that. Sarah told us a bit about the way she translates. Are you one of those authors who actually write a whole synopsis first? Or are you first thinking of characters or themes or plots? What's the first thing? And then how do you build your novel around it? What tools do you use? All this kind of stuff.
All right. So the way that I normally build my stories is that I will think, normally I'm looking for a problem that's very complex that I have questions about. So for me, it started with climate change. It starts with that big idea of climate change and what does it mean to be human beings now in this period when our planet is changing. And then I'm looking for the specifics, the specific opportunity to talk about, okay, what's a way to dramatize this? Water. What's a specific place that is vulnerable to water scarcity? The Colorado River. Now we're down on this very specific geographic level, but also cultural level. What are the things that are going on? So I get down to there, and then I start looking for my characters. I start looking for the people who are going to help illustrate this idea. So there's the water knife. So there's the 007 of water, the guy who's going to go out and steal other people's water rights or blow up other people's water treatment plants, or who will do anything to make sure that Las Vegas gets their water. There's going to be a climate refugee. There's a girl named Maria whose family has already had to flee from Texas because there's no water there, and they're trying to move, and she's gotten trapped in Phoenix because all of the states are putting up border controls to prevent people from moving. So there's an opportunity to see somebody who's a have-not of water, one of the water losers, and you get to live inside of her skin. And then there's the journalist, Lucy, and she gives me an opportunity to talk about the big ideas, the big picture. She can interview many different people and give you many other perspectives on what's happening in this world. And then I start thinking, okay, these are the windows I have into telling this story. These are the people whose skin you get to live in as a reader, but how are they going to bump into each other? And that process, that figuring that stuff out, it takes a while, actually, for me. I don't plot the whole book. I normally will start with those characters, trying to write them and rewrite them, and I start with their most simple moments oftentimes. What's it like to be a journalist in Phoenix when Phoenix is falling apart and you're reporting on it? Who do you report on? Where do you go? What do you see? If Lucy is, her first job as a reporter in Phoenix is to report about murders and the bodies are being thrown into empty swimming pools, this is something that you can see both her reacting to the barbarity of Phoenix as it falls apart, but it also gives you a chance to see a piece of Phoenix, all of these empty swimming pools that used to be full. And isn't it crazy that the city in the desert had so many swimming pools? So you see those, you get those small human moments that help you build out and understand the character. Eventually, if I write enough, and I think of it as a process of play. The objective is to play and try different attacks, try different ways of telling the story, try different moments with these characters, and eventually they feel real enough that they start to have a reason to exist all on their own. And then I can start putting Lucy, who's got one set of objectives, up against someone like Angel, who's the water knife, and what's going to happen when they both come into contact with one another. So it starts out with a lot of early writing, play. A lot of that stuff never makes it onto the page, but it helps me build the world and believe in it enough that when I finally start writing the real story, it has energy.
And are you very technological in the way you write? Are you using special software or just, you know, plain little book note?
Right. I used to actually handwrite, but then I got frustrated because my handwriting is so bad that I couldn't read what I'd written. And so I'm staring at my scribbled handwriting and thinking, like, I'm sure I meant something here, but I don't know what it is. So now I write directly on a computer, and I actually use a program called Scrivener to write. And I use Scrivener because it's easy to move things around. I can draft a lot of material and store it and keep it in different places and then pull it back in when I need it. And it helps me especially when I'm drafting, and I make big changes to my books oftentimes. It makes me feel much more flexible about all the material that I've created and how I can pop it in and pop it out and use it at different times, because when I write only in something like Microsoft Word, where it becomes one giant document, starts feeling very fixed very early, and that's something I want to fight. I don't want to get trapped in one structure too early, because there are so many interesting things that if you have a good idea, you want to feel free to start attacking the text and moving everything around again and trying a different version. And Microsoft Word, when I write in that, it feels too real too soon, and then you feel stuck. So.
Oui, alors pour qui ne connaît pas ce logiciel, il y en a d'autres sur d'autres supports. Ce sont les logiciels spécifiquement dédiés à l'écriture et qui permettent effectivement donc de basculer dans divers modes de lecture. On peut même se contenter de voir des petites notes qu'on a pu prendre sur telle ou telle situation, etc. Ça a beaucoup d'avantages, et notamment celui de déplacer des morceaux entiers du texte, de pouvoir sauvegarder des versions intermédiaires, de les changer, de jongler avec. Je ne pense pas que tu utilises cela pour la traduction, Sarah ? Non, tu es sur un logiciel de traitement de texte habituel.
Oui, tout à fait. Mais par contre, j'utilise énormément de dictionnaires en ligne, en grande partie grâce à la générosité de Nathalie Meige, qui partage ses trouvailles avec ses collègues.
Merci.
Mais aussi des dictionnaires papier particuliers, comme le Parler des métiers de Pierre Perret, qui est une mine quand on cherche des vernaculaires
et des
argots. Énormément d'outils comme ça. J'ai toujours 4 ou 5 dictionnaires ouverts sur Internet, plus le Arab Unabridged en version logicielle sur mon ordinateur, plus etc., etc., pour pouvoir à chaque fois plus un dictionnaire des synonymes, pour pouvoir systématiquement trouver le bon mot, la bonne traduction pour telle ou telle chose.
Et est-ce que tu fonctionnes un petit peu aussi comme on peut fonctionner quand on a, entre guillemets, l'inspiration, c'est-à-dire il y a peut-être des jours avec et des jours sans, et des jours où finalement ça ne sortira pas. Peut-être que maybe Paolo, there are days when you can write and others when you cannot. Not a question of inspiration, maybe, but who knows?
J'ai plus ce problème-là avec l'écriture qu'avec la traduction, mais c'est vrai qu'il y a des jours ça passe pas. Il y a des jours où je vais traduire 10 pages. Et puis, il y a des jours où je vais en traduire 50 parce que ça va tout seul.
I think that I try to show up. I try to show up and do a couple of hours in the morning. And if I start well, if I start early and start writing, on a good day, I can write thousands of words. On a bad day, I'll write thousands of words and throw them all away. But still, the writing of all those bad words, I'm amazed at how much dumb writing I do. If I look back at early drafts of even a basic short story, Mika Model, which is in the Utopial collection here, Mika Model, when I look at the first way that I wrote that story, I wrote that story again and again in different ways, trying to find some feeling that I wasn't quite sure about. But you know, I'd show up another day and I'd take a stab at it, and some days it's good and some days it's bad. But the showing up means that you're eventually getting somewhere. It's all actually forward moving. Even if you're deleting things, you're still actually moving forward. So for me, that's kind of the way. When I'm not being disciplined, you know, sometimes there's distractions and sometimes there's life that gets in the way, of course. But what I've noticed is that when I'm in that disciplined process of showing up, I'm amazed at actually how much I create. It's just the showing up.
Bah, je fonctionne un petit peu pareil parce que je ne vais pas travailler directement sur la version définitive. Je vais faire plusieurs versions. Je vais faire un premier jet où justement je peux me permettre les mauvais jours de traduire au kilomètre en sachant que je vais devoir revenir sur le texte après parce que je n'ai pas trouvé exactement la manière que je voulais et je me laisse des petits signes pour me le signaler. Mais je préfère travailler comme ça, avoir un premier jet qui est fini, pour pouvoir revenir dessus une, deux, trois fois pour vraiment affiner à ce moment-là. Parce que même quand j'essaye d'avoir un travail beaucoup plus abouti au premier jet, c'est pas aussi efficace.
Donc, relecture, retravail, bon, tu n'es pas amené à couper des bouts, évidemment, ça n'est pas... Mais Paolo, in the four... in the afterword to your novel, in French, I think it's after. Maybe it's a foreword in English. You mentioned, you know, the help of some people on this, on the plotting itself, depending on the structure. Could you tell us a little bit about that? About the way you have consultants, including Sarah, maybe?
Marion
Mazurik at Diablo, I don't know, or your agent?
So there are a few people who I will... I don't normally let people read my drafts. My drafts are... I have a very hard time showing people my work anyway. It feels very exposing, actually, to publish a book, but even to show somebody a draft is terrifying. To publish is horrifying, truly horrifying. It's so scary to see people read your book. But there are moments where you realize, like, you know, and for me with The Water Knife, there was a moment where I hit a wall. I was writing a story. I'd written, at one point it felt good, it felt smart, it felt like it worked. And then there was a sudden moment where I wrote a whole lot and it was very, very dumb. And I couldn't figure out why the book had broken, like why it had changed, and I was really stuck. And I ended up going to on a sort of a writer's retreat that a few of my friends organized. A couple of other writers organized this retreat, and we would go away for a couple of weeks. And everybody is professional writers. We've all working on books on deadline and stuff, and we'd all go away. And there's this one woman, Holly Black, who is a genius at plot, and she can literally listen to you describe a plot in 5 minutes and give you the fix for your plot. She's
plot doctor.
Very much plot whisperer. We call her the plot whisperer. Yeah, and she. So over the course, she asked me how I was doing on this book because she knew I was working on it and. And she knew it was an important project for me. And I said, well, you know, actually, I'm completely screwed. I don't know how to write it, and I don't think I can, and I don't know why it's broken. And she's like, well, talk it over for me. Tell me how it is. And I started to describe it. And I think on our way to dinner, we walked for maybe 15 minutes, and I described the basic plot, who the characters were, what was happening in the story. We got to dinner. While we're standing and waiting for our table, she says, oh, well, here's your problem. As soon as you did this, that was a mistake. What you should do is this. And suddenly I could see it. I was like, oh, if I do this, then I can do this. And she's like, right, and then you could do that. And I'm like, oh, and then I could do this and this and this. And she's like, exactly. And there was this moment of, like, the door reopening again. But, yeah, having other eyes on the book, having another thinking person sort of, you know, pointing out this thing that was super obvious to her, but because I was so deep in it, I couldn't see why it wasn't working. And that was it. And suddenly, like, the rest of the book came together, click, 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 click. It was just puzzle pieces. All the puzzle pieces were there. I had every piece, but I didn't know how to put them together. And having me tell her about those pieces meant that she could say, oh, well, try this one in that spot. Like, oh, well, now the puzzle works. And it was, yeah, it was, I'm really grateful, actually.
And about previous books. We know on this one you didn't communicate that much because she already speaks your language perfectly. Yeah. But in the past, because I think you translated all the novels, didn't you?
There's only one. Il y en a un seul que je n'ai pas traduit. C'est la Fabrique du doute qui a été traduite par Patrick Marcel.
Que nous saluons et que nous rencontrerons demain avec Anne Lecky, d'ailleurs. So, Paolo, in the past books, before Water Knife, I assume there was some kind of questions back and forth between Sarah and you. And about the specifics of writing, did this strike you as, a way to, maybe this was a little detail, was a little bit twisted too much? Maybe if she didn't understand, I should work it out another way? Or what?
No, she actually always makes me feel like I'm smarter than I am, which is really nice. oftentimes the conversations, when we have them, it's something where she's saying, I know this works really well in English. This will not work at all in French. Where do you want to go with this? And that was, one of these things which is really interesting to me about, her job is this, as this ambassador sort of my book, to bring it to some other set of readers who are going to have a different set of cultural backgrounds, a different set of assumptions, a different set of like rhythms, a different, all of these different things, and that she's going to make it feel as though it belongs in that spot, in that culture, in that language. Normally she actually has the fix. She has a question and she's like, it's like with the Shipbreaker question, it's this thing where she says, here, I've got to solve, what do you think of it? And you're like, you're brilliant, I like it, you go. But that's the key, really, is that, when she's checking in with me, it's almost always, it's not so much about the text, it's about the cultural crossover more than it is about the text itself. So.
Je vais raconter l'anecdote dont il parle. En fait, dans Ferrailleurs des Mers, nous avons une communauté de ferrailleurs sur une plage qui survivent en démantelant des supertankers, d'anciens gros cargos, etc. Et en anglais, le vernaculaire, ce qui donnait le sens de la communauté, tournait autour du mot « team », « équipe ». En français, on pense très vite au sport quand on parle d'équipe. Donc, et puis, il y avait beaucoup de mots qui étaient formés autour du mot « équipe » qui n'étaient pas possibles en français. J'ai donc pris le fameux parler des métiers de Pierre Perret, et j'ai été regarder le vocabulaire des ferrailleurs, le vocabulaire des métallurgistes, le vocabulaire des dockers, etc., pour former une langue, un vernaculaire commun à cette communauté, pour que ce sentiment de communauté qui est si important en anglais soit possible en français.
Or, la langue forme la communauté est formée de la langue.
Tout à fait.
Et dans ton travail d'auteur, est-ce que traduire les bouquins de Paolo, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, toi, en termes de structuration, par exemple, de...
La traduction est une excellente école d'écriture, en fait. Parce que, pas particulièrement parce qu'on va écrire comme l'autre, mais parce qu'on voit comment il a construit, comment il a articulé, comment il a créé ses personnages, les petits trucs qu'il a utilisés pour leur apporter de la profondeur, les anecdotes, vraiment toute la construction, les rebondissements, etc. C'est une excellente école.
Tu as un exemple à nous donner d'un de tes textes qui aurait été, où tu aurais... peut-être retravailler ou non ? Non, ça vient. Non. Ah, tu admires et tu veux être au niveau ?
Oui, j'admire et je veux être au niveau, mais ce n'est pas conscient au moment de l'écriture. C'est après que je me rends compte que j'ai appris des choses. Et je sais que, par exemple, là, je suis en train de me préparer à écrire un roman qui m'a été demandé par mon éditeur. Et je sais que là, mon travail de traductrice, que ce soit avec Paolo ou avec d'autres auteurs, va m'être très précieux. Parce que le long cours, je ne connais pas. Je suis une nouvelliste d'abord. Et ça fait un peu peur, d'ailleurs, de traduire, d'écrire du long. Mais en même temps, à force d'en avoir traduit, la structuration, la construction, comment on peut allonger quelque chose sans faire de remplissage, c'est une très très bonne école.
One of the most frustrating things for me was that I started out writing short stories and I liked that format because you get in, you hit your idea, it's like a grenade. It goes off and the idea sticks in people's heads forever. And so when I started trying to write novels, I was hugely frustrated because I was like, why do you need all these pages? Anyway, it's just very interesting to sort of, you know, move from that one space of short stories into the long form and to find a way to make it feel relevant.
And so do you feel like reading more translations now? I know that in the United States it's quite rare to have foreign books translated. What about the translation of a novel by Sarah when it's completed? For instance, would you be...
Would I read it? Yes, I can't translate it, though, because my French is terrible.
Of course. But, and you know that the French, there is a French magazine now that has an American version, well, no, English-speaking version, mm-hmm. Angle Mort. So what's the title of the magazine in English?
Blind Spot.
Blind Spot?
Okay.
So
I think one of the things that's happening right now in the United States is that there's a lot of interest in writing that's happening in other countries. And it's this sort of thing that's been slowly building, finally America realizes that the outside world exists. I'm sorry. It's embarrassing. But finally you are starting to see this interest, and it's being driven by either specific translators who are acting as ambassadors for certain books. You see this with like Ken Liu doing this for Liu Cixin from China. You're seeing people. You're seeing Hayakawa Hayakasoru Publishing translating more things from Japanese into English. Taiyo Fuji's Gene Mapper comes to mind right away. You're starting to see these other languages finally entering into our awareness. But so much of it depends on that translator being able to make the case and then take the risk oftentimes. You know, Ken Liu started out translating Chinese short stories and building up sort of a credibility for his choices of short stories so that when he pitched, you know, something like Liu Cixin's Three Body Problem, he had some credibility behind him to say, hey, this is a worthwhile project. You should buy it even though you can't read it yet.
ça va de plus en plus loin, en fait. Akashic Book, par exemple, qui est une maison d'édition américaine, s'est associée avec Asphalt, une maison d'édition française, pour une série d'anthologies autour de villes. Il en existe plein. Ils en ont fait un sur Bruxelles, qui s'appelle donc Bruxelles Noire. À chaque fois, c'est le nom de la ville noire. Cette anthologie est d'abord parue en français, avec un texte. J'ai un texte dedans, et à Yordal en avait un aussi. Et cette anthologie est sortie en août aux États-Unis, traduite en anglais. Et donc cette maison d'édition-là, en tout cas, prend le risque de faire écrire des bouquins en français ou en espagnol ou en danois et de les faire traduire ensuite pour les publier aux États-Unis.
Oui, donc je me permets de noter que, en même temps que les traducteurs sont de plus en plus considérés, et d'ailleurs la présence de cette table ronde, entre vous et des trois qui suivront fait partie, me semble-t-il, des symptômes de considération accordée aux traducteurs. En même temps donc, les traductions d'auteurs francophones deviendraient plus faciles. Y aurait-il une corrélation ?
Révolution.
Bon, je crois qu'on va passer aux questions de la salle. J'imagine que vous en avez, parce qu'en plus, je vois parmi vous des auteurs, des lecteurs et même des traducteurs. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un avec des micro-baladeurs ? Ils sont là, en voici un là.
Merci. Merci pour cette conférence. Je voulais d'abord vous demander une question purement de traduction. Quand vous faites, lorsqu'un auteur a inventé un mot, a inventé vraiment un groupe de mots, tout un vocabulaire complexe qui est véritablement propre à l'histoire de la langue. Comment vous faites dans ce cas-là? Et ma deuxième question, c'est pour revenir un peu sur le titre de la conférence, l'auteur et son ombre, qu'est-ce qui fait que le texte traduit n'est pas tout à fait le texte de base? Ou pourquoi on appelle ça l'ombre et pas le texte de base, en fait?
Alors, pour la première question, c'est la raison pour laquelle les traducteurs sont considérés comme des auteurs. Et je crois que c'est encore plus particulier pour les traducteurs de science-fiction. Parce que là, oui, quand on a affaire à un néologisme inventé par un auteur, on devient en quelque sorte linguiste. On doit trouver un équivalent en français en utilisant, si possible, le même genre de racines pour faire passer la signification de ce néologisme en français. Pour la deuxième question, pourquoi l'ombre? Parce que une traduction ne sera jamais une traduction littérale. C'est absolument impossible, parce que les différences culturelles sont telles que une expression anglophone n'aurait aucun sens en français. Que certaines références n'existent pas en français ou en anglais. Et que donc, le traducteur doit adapter certaines choses, ou simplement parce que la langue et la manière de lire n'est pas la même. Par exemple, en anglais, il y a des mots de liaison en particulier, ou des didascalies, qui sont considérés comme invisibles. Donc, en anglais, quand on a un dialogue, c'est systématiquement « dit-il, 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 dit-il ». En anglais, on fait beaucoup de répétitions. En français, ça ne passe pas. Donc, on doit ajouter des choses, on doit éliminer des choses pour que ça passe dans l'autre langue. C'est simplement une question culturelle, la culture de la langue. Ou par exemple, quand un auteur va citer la marque... Un exemple. C'est un ami traducteur qui avait un problème. C'est quoi ça? Il me téléphone. C'est quoi du surround wrap? Ma seule réponse a été, c'est du sel au frais. Parce qu'en fait, c'est la marque la plus vendue.
Devenue non générique.
Devenue le nom générique d'un produit. Et à ce moment-là, quand on traduit, on doit aller chercher le nom générique en français pour que ce soit compréhensible pour le lecteur. Parce que si on utilise le terme en anglais, personne ne va comprendre la référence.
D'autres questions? La rangée de traducteurs. Mais Patrick, Marcel, vous êtes là, mais je ne vous avais pas vu tout à l'heure. Ah. Oui.
So my question is how do your personality appear in your characters if you are more appeal to a character in a particular, or if some character honor you, you cannot write his mind, his thinkings.
Okay, so it sounds like your question is about how I write characters who are different from my personality, or how close are they to my personality. Okay. The time when I'm doing my worst writing is almost always when the character is very similar to myself, because then I'm actually sort of embarrassed of who I am, and then I try to not reveal too much about myself, and so I make a very, very boring character on the page because I'm not honest. What I find is that I do best with characters who are very different than me. If I'm writing about a young girl of Texas Mexican descent who's traveling across the southwestern United States, I can sit inside of her mind far more easily than I can sit inside of my own mind and try to represent a character like myself. And I don't know exactly why that is. It's very interesting to me, but I feel much more comfortable dropping into a different person with a different set of problems, a different set of attitudes, and trying to sort of imagine where they are and who they are. Some of that, though, is also a process. The first time I wrote Maria, she was a different kind of person. And then the more I wrote about her and the more I wrote about her history with her father, her history with other people that she'd encountered, the more I understood exactly who she was. And that's in a lot of ways, you're both pretending to be the person, but you're also getting to know them in the same way that you get to know any stranger. You have lots of conversations with someone, and eventually you're like, oh yeah, Maria, I know you. I've met you before. And they become real. But yeah, I do best actually with those characters who are very different and strange from me. And I like that about fiction. I like that opportunity to try on somebody else's skin and try to think about what their reality is and what the details of their life are. And oftentimes that's the starting point for figuring out a character, is what are the very specific details about this person living in this life of this historical or cultural background with this gender. And you can start seeing specifics that are very different from your own and start building from there.
Une autre question ?
Tout à l'heure, vous avez dit qu'un traducteur était un auteur. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'une traduction peut être meilleure que le texte original ?
Ça arrive. Il y a des traducteurs dont c'est la spécialité, qui vont traduire de la littérature très populaire, parfois pas très bien écrite en anglais, sur lequel l'éditeur anglo-saxon n'a pas beaucoup travaillé. Et ce que l'éditeur va lui demander, c'est d'améliorer le texte. Je connais des traducteurs qui font ça, je les admire énormément, parce que c'est un travail extrêmement difficile. Et il y a des traductions qui... Il y a un certain nombre de lecteurs qui ont essayé de lire tel bouquin en français et puis le relire en anglais. Ils se sont aperçus qu'il avait été amélioré parce que le style de l'auteur est beaucoup plus sec ou beaucoup plus froid que ce que le traducteur en a fait, par exemple.
Il arrive aussi l'inverse. Moi, il m'est arrivé, puisque je traduis aussi, et des fois je relis, il m'est arrivé de réviser, comme on dit, des traductions. Le traducteur ajoutait une phrase... toutes les cinq phrases. Là, c'est une adaptation qui allait dans l'autre sens, parce que le projet initial du livre, je ne dirai pas lequel, pour ne vexer personne, mais le projet initial du livre n'avait pas été compris par le traducteur, ou peut-être par l'éditeur. Peut-être y avait-il eu une demande de l'éditeur d'origine. En tout cas, une phrase sur cinq en plus, ça n'était pas respectueux, à mon sens, de l'auteur, de son projet et de l'ouvrage. Et j'ai donc rétabli, bien évidemment, de mon point de vue, le texte initial dans la version française.
Il m'est arrivé un petit peu la même chose avec un texte qui avait été traduit à côté. Il y avait des passages entiers où le traducteur n'avait pas compris ce que l'auteur voulait dire, ou n'avait pas vu les citations ou les références qu'il y avait dans le livre. Donc ça, les deux arrivent.
Mais le regard de l'éditeur est important, Sarah également. Hein, parce que c'est vrai que dans ce travail, on est parfois le nez dans le guidon. Et de même qu'un éditeur est important pour un auteur, un éditeur est très important pour un traducteur. J'imagine que tu as des anecdotes aussi à nous raconter, positives de ce point de vue-là.
J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais non, mais il ne faut pas oublier que l'éditeur a deux... En anglais, il y a deux termes. Éditeur, editor, publisher. En français, on parle d'éditeur et la plupart des gens pensent publisher, celui qui va publier le livre. Mais le travail d'un éditeur est aussi de relire et de travailler avec l'auteur ou avec le traducteur pour améliorer le travail et en faire quelque chose de beaucoup plus lisible. Et je discute régulièrement avec les éditeurs avec lesquels je travaille sur l'opportunité de faire ceci, de faire cela, de faire tel changement parce qu'il y a un petit problème par rapport avec la langue française, etc. Et il y a une grande écoute à ce niveau-là.
Très bien, il nous reste encore quelques instants. Si vous voulez une dernière question, mais vraiment très rapide. Comment ? Ben non, apparemment c'est Jimmy.
Ils sont timides.
Ils sont timides. Bon, Paolo, on va vous remercier. Donc, we're going to say thank you for giving us a little bit of a hint of your intimate life and the way you create those magical.
Je voulais juste rajouter une chose. C'est que le travail, le rapport du traducteur avec le texte qu'il traduit est quasiment aussi intime que le rapport d'un auteur avec son propre texte.
Et si j'allais justement, Sarah, te remercier de nous avoir aussi livré quelques détails de cette intimité-là. Et voilà, imprégné à vie apparemment par le Bachigaloupi. Merci.
Merci.
Nous vous laissons avec la prochaine rencontre. Merci.
Thank you.